Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, dernière émission du mois de décembre pour nous. Salut Germain.
Bonjour Antoine.
Alors, nous sommes le 17 décembre aujourd'hui et à l'approche des fêtes, et pour qu'on se conscientise un peu sur notre conduite, on va recevoir en deuxième partie d'émission Bertrand Godin, qui est porte-parole d'une consommation et d'une conduite responsable en collaboration avec la brasserie Labatte. Alors, on va parler avec lui tantôt. Première chose qu'on peut faire, c'est de rapidement nommer les véhicules de l'année du Guide de l'auto qui ont été votés par toute notre équipe. Je te laisse aller avec ça, Germain.
Oui, effectivement. Donc, cette année ne fait pas exception. Le Guide de l'auto a décerné 3 prix. Donc, voiture de l'année, VUS de l'année et camionnette de l'année. Dans le cas de la voiture de l'année, le prix a été décerné à la Hyundai Ioniq 6. Donc, nouveau véhicule électrique de la famille Ioniq chez Hyundai. Notre collègue Gabriel Gélina a eu la chance de la conduire. Malheureusement, nous, pas encore, mais...
En fait, on a toujours un peu de misère à décerner un prix sur un véhicule qu'on n'a pas conduit. La nuance ici, c'est que toute la technologie qu'on y retrouve, on la connaît. Moi, j'ai pu prendre place à bord de la voiture, au moins pour regarder comment c'était fait, pour réaliser que ça sera la rivale la plus sérieuse à la Tesla Model 3.
Absolument. Ce sera une berline, là, pas compacte, mais plus ou moins.
Mais avec des avantages par rapport à la Tesla Model 3, notamment en termes de qualité de fabrication. Alors, c'est clair que cette voiture-là est vouée au succès. Bon, évidemment, on est friand de VUS ici au Canada, mais c'est une voiture qui, aux États-Unis notamment, va avoir un impact significatif.
Et qui pourrait prendre le relais de la
Sonata.
De la Sonata, ben oui, et peut-être même de l'Elantra dans un avenir plus ou moins.
Ben, l'Elantra, j'y crois moins, donc, mais...
On avait mentionné chez
Hyundai ne pas avoir de plan pour renouveler la Sonata après la génération
actuelle. Très simple, c'est ça la remplaçante.
Oui. Mais aux États-Unis, la Sonata est une voiture qui se vend encore très bien, contrairement à notre marché. Ouais. Mais bref, on a nommé cette voiture-là parce qu'elle exploite l'ensemble des éléments de la Ioniq 5.
Ouais.
Et parce que cette voiture-là répond tout simplement aux besoins des acheteurs nord-américains de très, très, très belle façon.
Dans les finalistes, on avait la petite mention, là, on avait la Toyota GR Corolla et la Toyota Prius. Prius dont je reparlerai dans quelques minutes.
Qui aurait très bien pu aussi se mériter ce titre-là, honnêtement. Ouais. On est né à né, là, pas mal.
Je n'enlève rien au choix que nous avons fait collectivement, mais je le dévoile, je me dévoile au grand public, c'était mon premier choix sur le plan personnel, mais sur l'équipe a choisi la Ioniq 6 et je suis tout à fait d'accord avec ça.
Et le VUS de l'année, qui est plus ou moins un VUS, là, on est à mi-chemin entre un... Appelez ça un multisegment. Même la couleur n'est pas claire. ça veut dire que là, Hugues exploite lui aussi la même technologie que l'Ioniq 5.
L'Ioniq 5 qui avait gagné l'année dernière le prix de la voiture de l'année.
On l'aime, là, cette technologie-là.
Ouais.
Alors, on appelle ça la plateforme EGMT chez Hyundai Kia Genesis. Et là, c'est le Genesis GV60, premier VUS 100% électrique de la marque.
Oui, effectivement. Et du coup, côté des finalistes, on avait cette fois le Cadillac Lyriq qui a remporté pas mal de points lui aussi. Un autre véhicule important pour Cadillac.
Je t'avoue avoir été surpris que ce véhicule-là n'ait pas cherché un peu plus de points personnellement que le GV60.
Il n'y avait pas une grande différence, là. Pas les feuilles de pointage sous les yeux, mais il n'y avait pas une grande différence.
Le GV60, on est très près d'une voiture.
Oui.
C'est...
Et c'était une technologie, justement, qu'on connaissait. Ouais. Alors qu'avec le LIREC, c'est la...
En fait, le problème de Cadillac avec le LIREC, c'est qu'on lance d'abord une version propulsée qui est peu puissante et qui n'est pas celle qui va nous convaincre.
Et est-ce qu'on n'a pas commencé la livraison au Canada?
Non, ça commencera...
Alors que le GV60, on a déjà commencé à le rouler ici.
Exact.
Donc, on avait le Cadillac LIREC et le Mazda CX-50.
Ouais.
Du côté des camionnettes, eh bien, c'est pas une très grande surprise parce que c'est un segment plus petit en termes de nouveautés chaque année. Là, c'est rare qu'on va avoir 12 nouveautés de ce côté-là.
Mais c'était d'une évidence.
C'est le Ford F-150 Lightning, camion de l'année selon le guide de l'auto. Camion avec lequel j'ai remorqué. Et d'ailleurs, j'ai écrit quelques mots à cet effet-là sur le site.
Il n'y a pas que des avantages.
Il n'y a pas que des avantages, mais en même temps, c'est une technologie... C'est la nouvelle technologie qu'on apprécie et c'est assez révolutionnaire dans le segment au Canada. Je sais que toi, t'étais, comment dire, peut-être plus optimiste que moi face à ça, mais je m'estime échaudé avec le Mustang Mach-E comme première tentative sérieuse électrique chez Ford. Je sais qu'on avait eu des Focus électriques et tout ça, mais on a eu tellement de ratés avec le Mach-E que de recommander la tête en paix à un F-150 et de dire qu'on n'aura pas de problème avec ça. J'ai un petit...
J'ai une réticence.
Cela dit, de nommer un véhicule de l'année, je pense que le facteur fiabilité est écarté parce que, justement, c'est des véhicules qui sont neufs, des technologies nouvelles. Et on n'a pas de boule de cristal sous les yeux. Là.
Chaque chroniqueur automobile a sa façon de voir ce qu'est un véhicule de l'année. Moi, personnellement, un véhicule de l'année ne signifie pas que c'est celui que vous devez acheter.
Non, voilà.
On n'est absolument pas là en ce qui me concerne. Le véhicule de l'année est pour moi le véhicule le plus significatif à avoir été lancé dans un marché à une période donnée.
Une technologie qui propose quelque chose de
c'est
différent.
Ça, pour exactement.
Moi, si on remonte un petit peu, là, on avait le CX-50 chez les VUS. Oui, c'est un véhicule parfait pour l'Amérique du Nord et tout ce que tu veux, mais sur le plan technologique, c'est rien de révolutionnaire.
Non, c'est ça. Et bien que le F-150 ne soit peut-être pas, et on le saura dans le futur, un modèle de fiabilité, on va voir, ce véhicule-là vient répondre à un besoin, le fait efficacement. Après ça, on peut être ou pas être d'accord avec les prix, avec la façon de Ford de vendre ses véhicules, avec tout ce que tu voudras, mais le produit en tant que tel arrive à un moment où la clientèle veut ce genre de produit-là. GM va arriver plus tard avec une camionnette électrique, on est en retard, et Ram est encore plus en retard.
Ouais.
Et Toyota, quelque part en 2047, devrait débarquer avec une camionnette 100% électrique. Chez Toyota, on vient de débarquer avec une technologie que Ford propose depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire un moteur 6 cylindres turbo. Avec une hybridation optionnelle, là. Clair que Ford a pris les devants. Et il y a évidemment Rivian qui devait arriver sur notre marché il y a plus d'un an et ça se fait toujours attendre. Est-ce que ce camion-là aurait pu remporter ce prix-là s'il s'était retrouvé sur notre marché? Pas impossible, mais comme il n'est pas là, ben tant pis pour
lui.
C'est
difficile de gagner. Parmi les finalistes, on avait le duo Chevrolet Colorado et GMC Canyon qui sont renouvelés aussi, mais personne ne les a vus conduits. Alors, c'est difficile encore là de leur décerner le
puis,
prix.
Puis, il y a des délais de livraison sur ces camions-là. Ça n'arrivera pas avant le mois d'avril-mai chez nous.
Ah oui, hein, d'accord.
Ouais.
Et le Ford F-150 Raptor R, comme quoi on retrouve les deux extrêmes sur un même...
Ça aurait été un peu gênant de nommer un F-150 V8 de 700 chevaux comme camion de l'année.
Oui, un petit peu gênant.
La conclusion, Germain, de tout ça, c'est que les trois véhicules qu'on a nommés, ce sont des électriques.
Ce sont des électriques. Mais c'est la technologie de l'heure que, sur le plan personnel, on soit adepte ou non, c'est la technologie du moment.
Ben ouais,
le moteur à injection, ça fait longtemps qu'on a fini de le peaufiner. Là.
Ouais, pas mal.
Voilà.
Bon,
autre nouvelle cette semaine, est-ce que c'est une nouvelle ou non nouvelle? Bonne question. On a su que Stellantis n'allait pas participer finalement au Salon international de l'auto de Montréal.
Ben, c'est, en fait, tu dis...
On s'entretenait avec Denis Dessureau la semaine dernière, qui semblait optimiste, malgré que bien des gens rament dans l'autre sens, j'ai l'impression. Et on avait fait la liste des présents, la liste des absents. La liste des absents est un peu trop longue à son goût et à mon goût aussi. Mais enfin, et là, cette semaine, ben, on a appris qu'un joueur important, là, parce que Stellantis, là, pour les gens de la maison, c'est Dodge,
en fait...
c'est Ram, c'est Jeep, c'est Fiat, c'est Alfa Romeo, c'est Chrysler. Alors, on en prend du pied carré au Palais des Congrès.
C'était le joueur le plus important, considérant les 6 marques du constructeur sur 19 qui étaient présentes au salon.
Tout à fait.
Alors, ça va faire extrêmement mal.
Mais ça va faire mal pour le salon. Ça fera pas mal à Stellantis.
Ah, ça fera pas mal à Stellantis. Là,
ils vendront pas moins de Ram.
Là où j'ai un problème, par contre, c'est que Stellantis sera au Salon de Toronto. Et ça, honnêtement, ça sent la discrimination à plein nez.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on délaisse le Salon d'auto de Montréal alors qu'on choisit d'être à Toronto? Parce qu'à Toronto, c'est confirmé, c'est signé. Montréal, on ne l'avait jamais officiellement fait encore. C'est une sérieuse question à se poser. Je sais qu'il y a une participation, par contre, au Salon de Toronto des concessionnaires
c'est sûr
Chrysler.
Que ça a une incidence.
Ouais.
Là,
alors que ce n'était pas le cas ici à Montréal.
Ouais.
Mais quand même, d'étirer ça jusqu'à la dernière minute, à même pas un mois du début de l'organisation du salon.
Incluant deux semaines de Noël, là. Hein?
Incluant deux semaines de Noël.
C'est ordinaire. Ce sera un salon ordinaire. Et là, on est enregistré, alors on ne peut pas dire n'importe quoi. Mais je garde mon téléphone pas très loin parce qu'on attend toujours le téléphone d'annulation, là.
Ben, ouais.
Moi, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas encore annulé, là.
C'est-à-dire que le Salon d'auto de Montréal confirme qu'il y aura un événement.
Oui.
On continue d'être très optimiste. J'ai parlé aux gens de Nissan hier qui sont très heureux de pouvoir être présents.
Oui,
GM,
puis pour les quelques marques
chose.
Présentes, tu dis, ben regarde, on sépare la tarte en moins de morceaux. D'accord. Mais j'attends encore l'annulation.
Mais ça commence à être difficile. Parce que la vérité, c'est que voici ce qui reste. Hyundai, Kia, donc les marques coréennes.
Tout à fait.
Toyota, Lexus, Nissan. Infiniti n'y est pas. Subaru est là. Semble que Tesla sera là.
Oui, puis encore là, ça va être trois propriétaires avec une Model S, un Model X.
Bon,
puis, comme ça l'était il y a quelques années.
Et du côté des Américains, il n'y aura que GM.
Que GM. Hein,
alors, qui va se déplacer pour aller voir essentiellement 5 concessionnaires?
Ouais.
Parce que sur les 14 marques qu'il y aura là-bas, vous en prenez 4 de GM en partant.
Oui.
Alors ça, c'est un concessionnaire. Toyota Lexus, c'est un autre concessionnaire. Tu comprends-tu? Il n'y a pas... Est-ce que tu vas payer 25 $ pour tenter de te stationner au centre-ville, payer ton billet d'entrée, acheter une pointe de pizza à 12 $ avec... Bon, tu comprends?
C'est de moins en moins pertinent et sensé. Là.
C'est difficile. Là. Oui, il y aura des attractions, c'est vrai.
J'aimerais ça y croire. Là. J'aimerais ça. Tu le sais qu'on aime ça, les salons de l'auto. Mais
et,
là...
Et hier soir, j'étais en compagnie de notre ami Benoît Charrette, qui lui aura aussi un kiosque au Salon de l'auto de Montréal pour son annuel de l'auto. On sera présent avec le guide de l'auto et on discutait, lui et moi, mais est-ce qu'on est capable d'imaginer quel sera l'achalandage à ce salon-là?
Moi, j'avais l'impression...
Sur une période de 10 jours?
Avec les informations qu'on avait jusqu'à il y a quelques jours, je me disais que si on faisait la moitié de l'achalandage, c'est-à-dire 100 000 visiteurs plutôt que 200 000, ce serait un succès énorme. Et là, plus les jours passent et plus je suis pessimiste face à tout ça. Puis je me dis que si on a 75 000 personnes, ce sera déjà beau, là. Qui va aller là?
En fait, on peut même se demander la viabilité de faire un salon sur 10 jours. Est-ce que ça ne serait pas plus logique de le faire sur 4 jours?
Oui. Un jeudi, vendredi, samedi, dimanche, là, et voilà, c'est terminé.
Puis à ce moment-là, est-ce que les constructeurs embarqueraient pareil?
Bonne question.
Bonne question. Alors,
On est dans la spéculation.
On
aura
la
chance d'en reparler assurément en début d'année prochaine, mais ça augure mal, disons ça comme ça.
Et un petit mot aussi pour mentionner que Stellantis a abandonné le Salon de l'auto de Montréal, mais il y a 1 400 000 Ram qui pourraient abandonner leurs marchandises si le haillon se baissait parce qu'il y a un rappel massif sur 1 400 000 unités des Ram d'été, donc nouvelle génération. Les haillons qui peuvent baisser pendant que le véhicule est en route. Alors, gros rappel massif de ce côté-là. Et tous les propriétaires de Ram recevront une lettre, évidemment. Des rappels, il y en a toutes les semaines, mais 1,4 million, c'est quand même du
stock. Ça fait beaucoup de paperasse.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, toi et moi sommes allés essayer deux véhicules un peu différents dans une région, dans une même région, on peut dire ça, comme ça, le sud-ouest des États-Unis.
Véhicules dotés de la technologie hybride.
Oui, exactement, mais aussi pas pour la même vocation.
Non, effectivement.
Bon, et le tien avait l'avantage d'avoir les quatre roues motrices, qui n'était pas le cas du mien. Tu es allé essayer un véhicule d'importance pour le constructeur Toyota, on le mentionnait un peu plus tôt, la Prius 2023, dans sa version régulière, non pas dans sa version Prime, celle-là arrivera sur le marché dans 5 ou 6 mois, mais la nouvelle Prius, elle, va débarquer d'ici quelques semaines chez les concessionnaires. Et toi, ben, t'as eu la chance d'aller conduire ça. Je t'avoue que j'étais même un peu jaloux parce que ce véhicule-là est tellement important que j'aurais aimé poser beaucoup de questions aux ingénieurs, ce que je ferai plus tard.
Mais c'est vraiment un véhicule très important pour Toyota, tu le mentionnais, mais très important pour l'industrie automobile à son sens le plus large.
Oui.
On est allé conduire cette voiture-là en Californie, ce qui m'a fait, qui m'a donné un petit sourire en coin parce que, les événements ont souvent lieu là-bas, mais dans le cas de la Prius, c'était vraiment c'était vraiment une destination pertinente parce que la Californie, pour moi, c'est le paradis de la Prius. On l'a adopté dès ses débuts.
Oui.
Et le lancement coïncidait avec le 25e anniversaire du modèle.
25e anniversaire du modèle à l'échelle mondiale.
Tout à fait.
Mais il avait été commercialisé à partir de 2000 en Amérique du Nord.
Tout à fait. Ouais. Mais le modèle, c'est ça, à l'échelle mondiale parce qu'on l'avait au Japon d'abord. D'ailleurs, elle est toujours assemblée au Japon, la Prius. Oui. Et c'est ça. Donc, pour 2023, on arrive avec une cinquième génération du modèle. Et quand on la regarde, OK, on remarque qu'il y a une grande différence avec le modèle précédent. Sur le plan stylistique, ça n'a rien à voir. On a tout rejeté de son passé, là, à part le fait qu'on a 4 portes et 1 haillon, grosso modo.
Ouais, ouais.
C'est une voiture qui est beaucoup moins laide, hein? Je pense qu'on peut dire ça comme ça.
Je dirais non seulement qu'elle n'est plus laide, mais
Oui, 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 elle est presque belle. Tu sais, pour te donner une idée, les jantes sont passées de 15 à 19 pouces d'un coup. juste ça lui donne beaucoup de personnalité. On a une ligne qui est un peu plus fluide. Son haillon arrière, on le conserve. On avait 2 panneaux vitrés avant. Maintenant, c'est un seul panneau vitré.
Tu faisais 2 panneaux vitrés arrière auparavant.
Auparavant.
Parce que tu as dit 2 panneaux vitrés avant.
À l'arrière. Avant, à l'arrière.
Oui.
Bref, il y avait 2 panneaux vitrés dans le haillon arrière,
c'est
avant.
Ça. C'est ça.
Et maintenant, il n'y en a qu'un seul. La visibilité, si tu veux mon avis, n'est vraiment pas excellente. Mais bon, la technologie hybride, on la maîtrise très, très bien chez Toyota.
Ouais.
Et on l'a amené à un autre niveau avec cette nouvelle Prius-là. Donc, la cylindrée passe de 1,8 à 2 litres. Donc, ça, c'est intéressant. Et en plus, on a amélioré tout le système hybride. On a réduit la taille de ses composantes. Autrement dit, on a augmenté son efficacité.
La voiture n'est pas plus éco-énergétique que par le passé, pourtant.
Non, mais elle est plus efficace parce que, bon, je l'ai dit, on a une cylindrée plus grande. On a forcément une puissance améliorée. On est à 196 chevaux et malgré tout ça, on conserve essentiellement la même cote de consommation, c'est-à-dire 4,8 litres. Donc, elle n'est pas plus éco.
Attention, elle est le rouage intégral de série.
Oui, voilà. Mais la Prius traction consommait 4,5
oui.
et la Prius à 4 roues motrices consommait 4,8. Donc, autrement dit, on a tout amélioré. On en donne encore plus aux consommateurs, mais la consommation reste la même. Donc, au final, à mon avis, on est gagnant. Elle est plus chère, là.
C'est parce qu'il n'y a plus de version de base.
Il n'y a plus de version de base. C'est pour moi une voiture plus mature, plus aboutie que jamais.
Mais qui va faire mal, et particulièrement chez nous, je pense, au vent de la Camry. Là.
Assurément. Parce qu'il y a un haillon, parce qu'elle a les quatre roues motrices, parce qu'elle est jolie aussi, tu l'as dit.
Oh ouais.
Alors, et elle arrive dans les prochaines semaines, une version Prime qui arrivera à la fin du mois de mars. Mais,
qui ne sera pas à quatre roues motrices.
Qui ne sera pas à quatre roues motrices, on les distinguera de cette manière-là.
Ouais.
Alors, pour moi, la Prius, c'était en quelque sorte une référence dans le domaine de l'hybride.
Ouais.
Et à mon avis, ça le demeure. De ton côté, Antoine, tu as conduit la McLaren Artura 2023.
Oui.
Un peu différent.
Un peu différent. Dans la région de Las Vegas, on est allé se promener dans des parcs nationaux d'abord. C'est une exotique qui me plaît énormément par sa ligne. Je trouve que c'est carrément une des plus belles voitures au monde. Je ne suis pas particulièrement fan sur le plan esthétique de la dernière Ferrari 296 GTB. Oui, c'est une belle voiture, mais je trouve que Ferrari a déjà dessiné des voitures plus élégantes que celle-là. Mais chez McLaren, on s'est vraiment surpassé avec la nouvelle Artura au niveau des lignes. C'est plus fluide, ça va bien vieillir. On garde la carte visuelle de McLaren. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on a mis toutes nos billes dans cette voiture-là. Je pense qu'on est à l'étape de ça passe ou ça casse avec l'Artura, parce que si on ne connaît pas le succès qu'on souhaite avoir avec cette voiture-là, McLaren n'en aurait peut-être pas pour longtemps.
On n'est pas un constructeur prospère. Là.
Ben non, comme n'importe quelle marque anglaise ou britannique, on est déficitaire chez McLaren depuis plusieurs années. Il y a des investisseurs privés qui ont mis de gros sous dans cette entreprise-là récemment. Le constructeur s'est débarrassé aussi d'une grosse partie de sa collection de voitures de course.
Quand on commence à vendre les meubles, c'est pas bon signe.
Ben, c'est exactement ce qu'on fait. Pour développer la technologie hybride et le nouveau châssis de cette voiture-là, qui est une coquille en fibre de carbone avec deux embouts de châssis en aluminium pressé super léger. C'est une voiture qui fait 1490 kilos. Alors, à peine plus lourd qu'une Honda Civic, mais pour une bagnole qui va t'offrir un niveau de performance exceptionnel et qui t'offre moteur V6 biturbo, moteur hybride placé en sandwich entre le moteur à essence et la nouvelle transmission séquentielle à 8 rapports. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de reculon sur la transmission. Le reculon est fait via le moteur électrique qui, lui, va tout simplement tourner en sens inverse.
Donc, on économise une vitesse sur la transmission.
Mais ce que j'ai trouvé ironique, c'est que, bon, évidemment, c'est une hybride rechargeable. Tu peux, dans les meilleures conditions, rouler à peu près 30 km en mode 100% électrique, ce qui veut dire que tu ne pourrais pas reculer sur plus de 30 kilomètres avec la voiture, après quoi tu auras un léger problème.
Effectivement, mais...
J'avais trouvé ça un peu comique.
Mais dès le moment où tu as épuisé ta batterie, tu ne peux plus reculer? Ou...
Ben non. C'était un gag qu'on avait fait.
Ouais,
oui, parce que là, tu es en mode hybride, donc le moteur peut quand même tourner.
Okay.
Oui. mais tout ça pour dire que, bon, puis évidemment, ben, le plaisir de conduire est au rendez-vous. Tu conduis, tu as les fesses au ras-le-sol, tu as une position de conduite géniale. Comme n'importe quel McLaren, se glisser à bord, c'est un peu de l'acrobatie, mais moins pire qu'avec d'autres modèles. Ça chante jusqu'à 8500 tours, le moteur V6. Alors, pour ceux qui aiment le son du V8, je vous dirais pas que c'est aussi clinquant que le V8, mais on est vraiment pas loin. Le niveau de performance est là et t'es capable de rouler en deçà des 10 litres au 100 malgré tout ce que t'obtiens. Bon, ça coûte 276 900 plus les taxes de luxe, plus les options. C'est une voiture qui s'adresse à l'élite, mais c'est la nouvelle technologie de McLaren qu'on retrouvera aussi dans la future remplaçante de la 720S dont on a cessé la fabrication tout récemment du côté de l'Angleterre. Alors, c'est la première d'une nouvelle série de voitures en espérant que pour McLaren, ben, on ait du succès avec ça. On dit aussi chez McLaren, en terminant, que les valeurs de revente ont explosé ces dernières années pendant la pandémie.
Ce qui est une bonne chose, parce qu'on n'était pas concurrentiel de ce côté-là.
Non, c'est ce qui a fait mal à McLaren, mais là, on est en train de se rattraper.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, c'est toujours un plaisir de recevoir notre invité à l'émission. En premier lieu, parce que j'ai toujours hâte de voir quelle sera la caricature qui va en découler par notre ami André Dagenais, qui fait toujours des sketchs assez intéressants.
Très recherché.
Ouais, Alors, j'invite les gens, évidemment, à aller voir cette caricature-là sur le site web du Guide de l'auto, qui sera là dès lundi prochain, pour ensuite pouvoir réécouter l'émission, si vous l'écoutez en direct, bien sûr. Mais notre invité, c'est Bertrand Godin, à qui on parle depuis l'Europe. Parce que Bertrand, lui, les tempêtes de neige, il se bade pas avec ça. Il s'est dit, on va aller se promener en Espagne pendant que les Québécois se tapent leur première neige.
Il se promène pas à pied, on y reviendra d'ailleurs.
Oui, c'est hein? Il s'amuse un petit peu. Salut Bertrand.
Bonjour.
Salut, hey, ça va bien. C'était juste pour pas pelleter là, que j'ai fait ça.
Oui, c'est ça. Fait que là, toi, t'es avec nous ce matin pour nous faire la morale, pour nous dire quoi pas faire, puis toi, tu te pousses à l'autre bout, là. C'est exactement ça, là.
Oui. C'est beaucoup plus facile. C'est... C'est pas mal moins gelé à vous parler dans ce temps-là.
Oui, j'imagine bien.
Bon, évidemment, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Bertrand. Toi, t'es instructeur de conduite à l'école de police de Nicolet depuis plusieurs années. T'es au fait de tout ce qui se passe en matière de sécurité routière et un des plus gros fléaux, malheureusement, encore aujourd'hui, ça demeure l'alcool au volant ou, évidemment, les substances, parce qu'aujourd'hui, bon... Le pot est légal.
On peut avoir les facultés affaiblies par autre chose que l'alcool, les médicaments, les drogues, tout ça rentre en jeu.
Une relation sexuelle au volant, tout ça, c'est des facultés affaiblies.
Ça te regarde, Antoine.
Non, mais bref. Alors, on s'en va pas là, là.
On est à la radio, heureusement.
Mais évidemment, t'es
ça
là.
Ça dérape beaucoup.
Les chemins sont coulants.
Oui, c'est ça. Bon, OK. On recule-tu de 30 secondes pour commencer?
Non, on continue.
Okay, c'est bon. Bertrand, évidemment, tu tires quoi du bilan de ce qu'on constate? Parce que toi, tu as un rôle, évidemment, de porte-parole pour conscientiser les gens, là, évidemment, à avoir une conduite responsable. Et on en parle, évidemment, parce que la période des fêtes arrive et que là, ben, les risques sont agrandis parce qu'il y a des parties partout. Et parce que, évidemment, comme pendant 2 ans et demi, 3 ans, il n'y a pas eu de gros parties ou de vraies périodes des fêtes, ben là, on a peut-être l'impression que les gens vont fêter, vont se rattraper pour les 2-3 années où ils n'ont pas fait grand-chose.
Ah ben c'est certain que lorsqu'on mélange l'émotion, justement, de revoir les êtres chers, ceux qu'on n'a pas eu vraiment la chance de fêter à cause de la COVID, eh bien, c'est certain qu'il faut penser à se préparer lorsque vient le temps de revenir à la maison. Parce que le mélange émotion, alcool, volant, c'est à proscrire, bien entendu. Et ça, ben, depuis une quatrième année, je suis très fier d'être associé à la brasserie Labatt pour passer le message et de dire aux gens, préparez-vous quand vient le temps de fêter. Essayez de désigner un conducteur, pas celui qui a consommé le moins, mais celui qui n'a pas consommé du tout pour le retour à la maison. Et à ce moment-là, ben, on évite... tout simplement de prendre le volant dans un état qui pourrait vous emmener beaucoup d'ennuis. On le sait, il y en a trop de collisions mortelles. C'est tous des collisions qui peuvent être évitées juste parce que les gens prennent les bonnes décisions.
Puis on pourrait penser, bon, instinctivement, que Labatt qui donne la morale, c'est un peu glissant, mais en même temps, Labatt a des initiatives pour justement contrer l'alcool au volant. Peux-tu nous en parler?
Oui, ben c'est certain que le but de la BAT, c'est de faire en sorte de passer des joyeuses fêtes en toute sécurité et faire en sorte que les gens se préparent. Vous savez, ces genres de situations-là, on n'en veut pas. Et le message, malgré le fait que oui, on en parle à chaque année, il faut continuer de taper sur le clou, eh bien, ça fait du chemin, parce que si on regarde l'évolution de ce que c'était avant, dans les années 70, 80, 90, eh bien, on a franchi un pas vraiment intéressant avec les nouvelles générations qui, eux, prennent les décisions d'avoir un responsable quand il y a une fête à la maison, de prendre les pieds de tout le monde, de surveiller. Et s'il y en a un qui prend un verre d'alcool, ben, on appelle les rouges, on appelle quelqu'un va reconduire les gens. Et c'est comme ça qu'on a réussi à améliorer le bilan.
Donc, tu constates une amélioration dans le comportement des plus jeunes automobilistes par rapport aux plus vieilles générations. C'est ce que je comprends.
Bien, tout à fait, parce qu'eux, ils ont été habitués à zéro alcool lorsque tu obtiens le permis de conduire. Et souvent, les jeunes continuent sur cette lancée. Et okay. Bon, il y aura toujours peut-être certains qui vont passer à travers les mailles du filet, comme on dit, mais en grande majorité, c'est vraiment remarquable.
Donc, la conscientisation, elle doit se faire beaucoup plus au niveau des gens qui sont plus âgés et qui, eux, ont conduit à une certaine époque avec une bière entre les jambes en débouchant leur bouteille avec leur ceinture de sécurité, là. Parce que il fut une époque où c'était comme
ça,
là.
C'était la réalité, oui.
Ah oui, ben ça a été une époque où justement il y avait au-delà de 2400 décès par année. Le parc d'automobiles était quand même 4 fois moins élevé. Pour dire à quel point on a fait un bon pas.
Wow. Okay.
C'est intéressant de te recevoir cette semaine, Bertrand, parce que bon, le sujet de la sécurité routière est inévitable avec toi, mais j'ai l'impression que c'est un sujet encore plus d'actualité cette semaine. Bon, oui, parce que il y a eu une chute de neige vendredi, et en plus, ben il y a eu le malheureux décès d'une jeune écolière. Je sais que tu n'es pas au Québec en ce moment, peut-être que tu n'es pas au fait de l'histoire, mais les grandes lignes sont les suivantes. Une jeune fille se rendant à l'école ben, a malheureusement perdu la vie parce qu'elle a été happée par un conducteur. C'est quoi les réactions de l'instructeur de conduite que tu es face à cette situation?
Ben, vous savez, la conduite nécessite principalement qu'on porte attention aux gens autour de nous. Je comprends que, bon, la réglementation, oui, il faut la suivre, il faut respecter les limites, il faut respecter les règles. Mais ayez les yeux à l'extérieur du véhicule, surveillez les gens. C'est pas parce que on roule en dessous de 50 km/h qu'on respecte les limites que ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Et vous savez, la gestion de l'attention est extrêmement complexe. Des fois, on a tendance à sous-estimer ce que représentent les notions d'observation, de gestion d'attention, d'analyse, pour faire les bonnes actions. Et lorsqu'on parle de connaissance, parce que la conduite, c'est un mécanisme complexe où 40% dépend de vos connaissances directement liées à votre sens d'observation, il y a l'autre 40% qui est les facteurs humains, le stress, la pression qu'on se met, votre forme physique, psychologique,
ouais,
qui va avoir une influence directe sur votre analyse. Et 20% c'est de la technique. Donc, c'est pour ça que ça prend vraiment toutes nos facultés. Et même, j'irais jusqu'à dire que la confiance en soi joue un rôle. Quelqu'un qui n'est pas confiant va regarder plus longtemps, va être en retard sur bien des choses qui peut emmener là aussi énormément de problèmes.
Mais en même temps, si on est trop confiant de ses moyens, on peut être amené à prendre la conduite à la légère, là. Donc, c'est l'équilibre qu'il faut aller chercher.
Oui. Oui, et ça, c'est tellement bien dit, c'est l'équilibre. Parce que là aussi, et on le voit dans des conditions de neige, de glace, ben on a deux types de conducteurs. On a les conducteurs qui se retrouvent dans une situation à surestimer les capacités de la voiture et de leur capacité à eux. Et il y a ceux, eux, ils vont rouler beaucoup plus vite et bon, on va les retrouver des fois dans un poteau de téléphone ou en dehors de la route. Et il y a ceux qui, eux autres, sous-estiment les capacités de la voiture et des éléments par un manque de connaissances, eux vont rouler très, très lentement, prétextant qu'ils sont sécuritaires, mais finalement, ils sont
c'est
juste pas
mieux,
conscients
ouais,
de ce que la voiture peut faire.
Mais je trouve ça intéressant
donc,
que tu dises ça.
Souvent, ben,
Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que, bon, évidemment, aujourd'hui, les pneus d'hiver sont obligatoires, mais on se souvient, dans les années 90, au début des années 2000, lorsque la mode des VUS est arrivée, les véhicules que tu voyais dans le champ l'hiver, c'était tout le temps des 4x4 parce que les gens pensaient qu'ils étaient invincibles et finalement, ben, ils se rendaient compte que ça avait quand même des limites, là. Puis le problème, c'est qu'avec un 4x4, tu te rends plus loin dans le champ, en plus.
Voilà.
Oui, puis et même, je dirais, aujourd'hui, avec tous les systèmes de contrôle de stabilité, de contrôle de motricité, d'ABS, eh bien, les gens ont tendance à penser que c'est invincible, alors qu'on le sait tous, vous savez même mieux que moi que, bon, ces systèmes-là ont leurs limites. Il faut les connaître, il faut les reconnaître pour mieux les respecter.
Absolument.
Puis certains systèmes d'aide à la conduite comme ça vont fonctionner par radar et vont être obstrués quand il y a de la neige, de la glace ou ce genre d'intempéries. Alors, il faut être capable de conduire et de réagir même si ces aides-là, qui deviennent parfois des béquilles, ne sont pas toujours présentes et fonctionnelles.
Mais ça, c'est tellement vrai parce qu'il y a des gens qui vont mettre le contrôleur de vitesse dans des situations d'agadou. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que la traînée fait ralentir la voiture. Et là, ben la voiture accélère alors qu'on ne devrait pas lorsqu'on est dans une situation qu'on peut dire d'aquaplanage. Et là, ben ça emmène des pertes de contrôle. Et si on lit les instructions, et ça, je doute que tous les propriétaires de voitures prennent le temps d'avoir... comme livre de chevet, leur manuel d'instruction, eh bien, se font surprendre par ce genre de situation.
Je veux revenir sur un point que tu as mentionné un peu plus tôt, Bertrand. Je trouve ça intéressant. Tu dis que 40 % de la conduite automobile, c'est le facteur humain, incluant le stress, le sentiment que tu as, ta bonne humeur, ton état d'âme. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que, évidemment, bon, il y a eu, on a entendu toutes sortes de choses cette semaine à la radio suite à l'accident de la petite Maria qui s'est fait frapper sur la rue Parthenay. Évidemment, un des facteurs qui a été nommé, et j'ai pas le choix d'être d'accord avec ça, c'est qu'on met beaucoup de stress sur l'automobiliste qui entre en ville par la quantité de chantiers, de règlements, de zones de construction qui changent quotidiennement, par le fait que les conducteurs automobiles doivent se rediriger en utilisant des systèmes comme Waze, comme Google Maps, qui les amènent dans des quartiers résidentiels et qui crée... Bon, évidemment, tout ça, ça crée du retard, ça crée de la pression sur l'automobiliste. Donc, il y a un sentiment négatif de l'automobiliste moyen qui entre en ville par la mauvaise gestion des chantiers et de la configuration des rues. Est-ce que ça, tu considères que c'est un problème sur lequel il faut se pencher davantage?
Bien, tout à fait. Il faut que tout ça soit très clair, net et précis, parce qu'imaginez l'inconfort lorsqu'on arrive... On est habitué d'aller à Montréal, en tout cas, je suis habitué d'aller à Montréal, et quand j'y vais, j'ai toujours un stress de me dire, bon, OK, quelle sortie va être bloquée? Est-ce que je vais me rendre à l'heure? C'est des éléments qui amènent du stress. Bon, maintenant, il faut... Il y a des trucs pour pouvoir... dégager du stress, de partir plus à l'avance, d'essayer de prévoir et de se dire, ben, si je me trompe de chemin, c'est pas catastrophique. Il y aura toujours une rue un peu plus loin qu'on pourra tourner. Mais il y a des gens qui se mettent une telle pression et combien de fois qu'on l'a vu, même, on a vu des choses incroyables, des gens reculer sur l'autoroute parce qu'ils avaient manqué leur sortie.
Ouais.
Donc, on voit des choses que tu te dis, ben, voyons donc.
Tu dis ça et j'ai vu ça ce matin. Un gros Mercedes GLS flambant neuf avec des enfants à l'intérieur. La mère avait manqué sa sortie sur l'autoroute 640. Puis elle s'est mise sur le coin de la sortie. Puis elle attendait que l'autoroute se dégage pour reculer et prendre la sortie.
Oui, mais elle faisait attention.
Tu sais?
Oui, c'est ça. C'est complètement imprudent.
La prochaine sortie est un kilomètre plus loin. Là.
C'est un comportement très dangereux. Ouais. Très, très dangereux. Surtout sachant que les routes sont glissantes. C'est dangereux. J'ai pas d'autres mots.
Bon, évidemment, Bertrand, t'es aussi impliqué avec Opération Nez Rouge. Est-ce que tu penses qu'on va avoir beaucoup de travail chez Nez Rouge cette année? Parce que, bon, évidemment, les dernières années, si je ne m'abuse, le service n'a même pas été offert à une certaine époque.
Ben, écoutez, c'est certain, en plus, avec la brasserie Labatt qui est impliquée pour une 14e année avec l'opération Nez Rouge, qui est rendue une institution, hein, que c'est dans notre culture maintenant, et c'est génial, ouais. Parce qu'à l'époque, effectivement, les gens étaient gênés de prendre Nez Rouge. Aujourd'hui, on en est très fiers d'avoir ce service,
ouais,
qui a permis d'éviter que les gens prennent le volant en état d'ébriété. Et ça, ben, c'est un des moyens qu'il faut absolument prévoir d'avoir le numéro en poche pour pouvoir prévenir les bonnes personnes au moment opportun.
Est-ce que tu crois que ce serait pertinent d'avoir un service comme Nez Rouge qui serait offert à l'année? On sait que ça existe, mais ça demeure assez marginal, j'ai envie de dire, et c'est pas nécessairement connu du grand public comme peut l'être Nez Rouge.
Oui, ben c'est certain que Nez Rouge œuvre seulement dans le temps des fêtes. Et effectivement, ben aujourd'hui, ben ça a amené aussi la chance de pouvoir comprendre qu'on peut appeler un taxi, qu'on peut appeler Uber, qu'on peut appeler d'autres services de raccompagnement qui, eux, fonctionnent à l'année longue.
Ouais, bon, mais c'est encore une fois, c'est malheureusement pas assez. Parce que est-ce qu'il y a un équivalent à Nez Rouge, par exemple, au Canada anglais, ailleurs au pays, aux États-Unis?
À ma connaissance, non. J'ai pas effectué de recherche là-dessus.
Bon. Je veux qu'on parle rapidement de conduite hivernale avant d'arriver avec notre dernier sujet, Bertrand, parce que c'est la première neige. On le voit. La majorité des gens ont déjà leurs pneus d'hiver, oui, mais on a l'impression qu'ils les ont pas. Qu'est-ce qui se passe dans le comportement humain d'un automobiliste moyen qui on a tous l'impression là que les automobilistes découvrent la neige pour la
qu'ils
première fois.
Ils n'ont jamais conduit dans la neige.
Il y a
là,
quelque
alors,
chose de spécial là-dedans.
Alors qu'il y a quoi 8 mois, on conduisait dans la neige là.
C'est ça. Fait que ben oui, mais qu'est-ce qui explique ça selon toi?
Ben la perte de conscience de ce que représente la conduite hivernale. On le voit à chaque première neige, les gens ne savent plus porter une attention à découvrir où peut être l'adhérence sur la chaussée. Il y a une variation d'adhérence tellement incroyable lorsqu'on évolue sur les routes au Québec. Un tronçon peut être carrément sur l'asphalte, se retrouver sur la neige parce qu'il est venté. Avoir de la glace d'un côté, de l'adhérence de l'autre. Quand tu freines, la voiture va pivoter d'un côté et du moment où tu connais comment la voiture va réagir, ben là, à ce moment-là, tu l'anticipes. Et comme n'importe quoi, l'anticipation vous permet d'être tout en douceur, d'être plus calme et d'avoir le contrôle sur tous ces éléments-là. Mais c'est un exercice en soi et ça, les gens, souvent, ils pensent que la voiture va réagir à cause qu'ils ont des bons pneus d'hiver, comme au mois d'août, quand c'est complètement sec, alors c'est complètement le contraire.
Fait que tu dirais aux gens, distancez-vous davantage, puis essayez de comprendre comment la voiture réagit au niveau de l'adhérence par rapport à d'autres situations quand on est au sec. Parce que même le froid, lorsqu'on est sur le sec, même le froid affecte l'adhérence de façon considérable.
Ah ben complètement, et ça, bon, vous savez, la conduite, c'est de la vision. Donc, déneiger notre voiture, deux, avoir de la distance amplement, comme ça, ben s'il arrive quelque chose, vous avez une marge de sécurité. Trois, peut-être faire un test de freinage quand personne n'est en arrière, personne en avant, et que vous voyez que la chaussée est en train de se dégrader.
Ouais.
Ben, à ce moment-là, le fait de freiner, si vous sentez l'ABS alors que vous n'avez quasiment pas appuyé sur la pédale de frein, ben là, vous venez de comprendre qu'il n'y a pas énormément de capacité de freinage. C'est là que vous allez augmenter les distances, réduire votre vitesse, en dessous même des limites permises. Vous savez, il y a des gens qui mettent ça tellement prioritaire de respecter le 100 km/h. Quand vous n'avez pas les conditions, ben oui, vous devez...
Il y a là avec la logique.
Et de grâce.
Oui. On dit souvent que les limites de vitesse ne sont pas logiques dans de belles conditions. On les trouve trop basses. On dit qu'on pourrait rouler aisément 120-130 km/h, ça serait sécuritaire pareil. Mais à l'opposé, le 100 km/h en hiver est souvent trop vite.
Oui, tout à fait. Et ça, ben, on retrouve des fois des marges de vitesse tellement énormes entre certains conducteurs qui conduisent très, très, très lentement et d'autres qui conduisent même bien au-delà des limites de vitesse dans des conditions de glace, prétextant, bon, qu'eux, ils ont les capacités et vous savez, moi, ça me dérangerait pas de revenir à la maison à 200 km/h sur de la glace. Mais on fait pas ça. On partage la route avec des gens, donc les routes
ne
sont pas.
On sait, t'as décidé de prendre ton cours de pilote d'avion pour régler le problème. Il y a un petit truc avant qu'on. Oui.
Un truc simple, là. Vous savez, Noël s'en vient. Un cours. Offrez un cours à un jeune conducteur, à quelqu'un qui n'est pas trop à l'aise sur la glace, à l'école Claude Bourbonnais, à Icar, à Mécadlis. Déjà, vous allez comprendre que oui, on peut contrôler une voiture, mais faut pas surestimer, faut pas sous-estimer, faut juste être conscient de ce qu'on peut faire dans de telles conditions.
Hey, juste avant qu'on arrive à notre dernier sujet, tu conduis une voiture électrique, j'en conduis une aussi depuis un certain temps, et ce matin, j'ai encore une fois réalisé que la conduite à une seule pédale sur une voiture électrique, ça peut être négatif durant l'hiver. Alors ça, il y a de plus en plus de véhicules électriques
sur
nos routes.
Comment ça?
Ben, j'aimerais que Bertrand nous l'explique, mais la décélération, la force en décélération nous fait freiner, puis déstabilise la voiture, fait que c'est spécial, là.
Oui, ben, il y a un couple, comme si vous aviez rétrogradé une vitesse en trop lorsque, justement, vous relâchez la pédale d'accélérateur avec une voiture électrique à pédale unique, ce qui fait en sorte que s'il n'y a pas l'adhérence, ça peut vous emmener dans des situations vraiment problématiques. C'est pourquoi que moi, personnellement, quand je conduis ma voiture électrique, ben, j'enlève ce mode
cette fonction-là
pour avoir un meilleur contrôle.
Ça, ben, durant l'hiver ou quand il pleut, en tout cas, là. Ouais.
Oui, et ça, ben, il faut qu'on puisse adapter notre conduite aux différentes technologies qu'on possède. Et il y en a tellement, une multitude aujourd'hui. C'est pourquoi que connaître sa voiture, et quand je parlais d'aller suivre un cours, ben, vous pouvez le faire avec votre propre véhicule. Et à ce moment-là, vous allez découvrir ses forces et ses faiblesses.
Bon, toi, tu as eu la chance, Bertrand, de découvrir les forces et les faiblesses d'une voiture électrique un peu plus particulière ces derniers jours. On rappelle aux gens que tu es présentement du côté de l'Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Bertrand?
Ben, j'ai la chance avec Charles-Antoine Sinotte de présenter les courses de Formule E, c'est-à-dire de Formule électrique. Et puis, c'est le début de la saison des essais libres avant le 14 janvier où le début de saison sera lancé au Mexique. Et puis, ben, tout le monde était fébrile parce qu'on présente la nouvelle génération, vous savez, la Formule E qui amène une nouvelle technologie à tous les 4 ans. Et là, ben, la troisième génération, elle est vraiment superbe, une voiture qui détonne au niveau esthétique et au niveau de sa technologie avec un groupe propulseur qui vise en avant, mais malgré tout, la voiture n'est pas 4 roues motrices. C'est un système de récupération d'énergie, si bien que 40% d'énergie va pouvoir être récupérée durant l'épreuve, ce qui est quand même colossal. Et c'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir sentir ces vibrations de ce petit laboratoire sur roue.
Bon, c'est ça, là. Ce qui est arrivé, c'est que tu as pu t'installer au volant de cette voiture-là. On va découvrir quelque part en janvier sur TVA Sport toutes tes impressions de conduite de la Formule E que tu as pu conduire. J'en suis persuadé que tu as, te connaissant, je suis persuadé que tu as réalisé un rêve en conduisant cette voiture-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le plan technique? Est-ce que d'abord, c'est une technologie qui provient toujours de chez Lucid Motors?
Ben écoutez, c'est Spark qui a fait le développement technologique de la voiture. On a cette année, on a plus de 10 de freins sur l'arrière. C'est un freinage électronique. Par contre, on a gardé le système hydraulique avec des disques à l'avant. Ce qui fait en sorte que c'est complètement nouveau. Et avec les nouveaux pneus Hankook, pour chauffer les pneus, ça sera une adaptation pour toutes les équipes. Car avant, juste la chaleur des disques permettait de se dissiper sur la jante qui amenait de la chaleur aux pneus. Mais en ayant plus de disques à l'arrière,
ça, ouais, okay.
On a plus. Donc, là aussi, on parlait d'adaptation de pilotage avec aussi la traînée de récupération d'énergie avec le gros propulseur en avant qui envoie la puissance à l'arrière, c'est colossal. Écoutez, ça va représenter quand même 470 chevaux, cette voiture-là. Elle est plus courte, plus légère, plus rapide, le 0-100 en 2,5 secondes, vraiment un bolide extraordinaire.
Et c'est combien d'heures de recharge sur une borne du circuit électrique, Bertrand?
ça, on n'a pas eu encore la chance. Là. On est actuellement... On va être en rencontre là, dans 5 minutes, justement, pour pouvoir avoir plus de réponses à toutes nos questions.
Les questions de l'électromobiliste traditionnel. Est-ce que la batterie est thermorégulée?
Est-ce qu'elle est éligible aux subventions?
Oui, c'est ça. On a-tu le 12 000 de subventions, c'est ça? Mais la grande question... La grande question, Bertrand, c'est qu'après avoir conduit cette voiture-là, après avoir été séduit par toute cette technologie-là, toi qui as les deux pieds dans la formule électrique plus que jamais, vas-tu réussir à convaincre Mme Plante de ramener la Formule 1 à Montréal?
j'aimerais beaucoup parce qu'on est loin là, de la première génération, malgré que le fait que la course avait été très, très spectaculaire en 2017.
Ouais.
Disons, sur le plan politique, ça n'avait pas été vraiment un franc succès.
Non.
Donc, espérons qu'un jour, ça pourra revenir parce que elle est de plus en plus spectaculaire.
Mais ça serait plus que jamais... Mais ça serait plus que jamais logique d'amener une épreuve comme celle-là à Montréal dans un contexte où...
Elle n'en veut pas d'auto. Soit électrique, que ce soit à hydrogène, à gaz ou à cheval, elle n'en veut pas.
La seule personne qui a le droit de se promener en voiture, c'est elle.
Oui, mais, avec son chauffeur, c'est ça. Mieux.
Mais
on pourra voir peut-être la voiture évoluer sur le circuit Gilles Villeneuve, ce qui serait... vraiment fabuleux.
Ce qui serait génial. Puis comme le Québec est une plaque tournante en électrification, je me dis que c'est un endroit où, justement, ce genre d'épreuve-là pourrait avoir lieu. Et si Bertrand est impliqué dedans, et qui plus est, si Bertrand est capable d'en conduire une pour nous impressionner à Montréal, puis de gagner un Grand Prix de Formule 1 ici, là, c'est encore mieux. Mais faisons les choses par étapes. Alors, j'ai bien hâte de voir ce reportage-là qui sera sur TVA Sport. On n'a pas la date exacte.
Ce sera en début d'année prochaine, c'est bien ça.
Avant la course qui débute le 14 ou 15 janvier, tu disais?
Oui, exactement, le 14 janvier sur TVA Sport.
Bon, alors, soyez à l'affût. Vous allez pouvoir voir les impressions de Bertrand dans une voiture. Et la bonne nouvelle, c'est que comme c'est une voiture électrique, il va pouvoir vous donner ses impressions en conduisant et vous allez l'entendre. Parce voilà. Qu'avec une Formule 1, c'est un peu difficile quand même.
Je pensais que c'était pour dire on va être au courant. C'est bien ça.
Oh, oui. Je l'avais déjà fait dans une autre émission. C'est du vieux stock, ça, Bertrand.
Oui, oui, oui.
C'est pour ça que j'avais anticipé cette réponse-là de ta part.
Il est quelle heure en ce moment, là, au moment où on se parle?
Il est 16h30, non?
16h32.
Ah, ben oui, exactement. Bon, alors Bertrand, merci d'avoir pris le temps de nous appeler depuis ta météo de 25 degrés, mon sacripant. Moi, je vais aller déneiger mon char.
Bon, moi, je vais déneiger demain.
Ouais, à l'aéroport en revenant. C'est ça. OK, ça marche.
Merci beaucoup,
merci, Bertrand.
Merci, les gars.
Bye-bye.
Bon séjour. Merci.
Au revoir.
Antoine, c'est ce qui conclut l'émission du Guide de l'auto pour l'année 2023, ces derniers jours avec...
Je dirais plus 2022, mais oui.
OK, on va la refaire. Antoine, c'est ce qui conclut l'année 2022 pour le Guide de l'auto. On a enregistré, toi et moi, avec nos collègues Frédéric Mercier et Gabriel Gélina, une émission spéciale de fin d'année qui sera diffusée les 24 et 31 décembre, et évidemment rattrapable en balado n'importe quand. On fait une rétrospective de l'année 2022, ouais. Les moments marquants de l'année, et on termine ça avec nos coups de cœur de conduite de
personnel,
l'année.
Ouais, c'est voilà. Ça, exactement. Et évidemment, on sera de retour dès la deuxième semaine de janvier, mais d'ici là, le 7 janvier, ça sera la diffusion de la première émission de la nouvelle saison du Guide de l'auto sur TVA, les samedis 11h30. Et pour ceux qui veulent être au rendez-vous, Gabriel, Gélina et moi mettrons à l'essai la Lucid Air qu'on a pu conduire ici sur les routes du Québec et sur un circuit. Vous aurez donc nos impressions complètes sur cette cette voiture-là. Alors, c'est un rendez-vous. On sera là pour 26 semaines consécutives cette année avec le Guide de l'auto. Comme quoi, on va essayer pas mal de trucs. Beaucoup de véhicules électriques, beaucoup d'hybrides cette année. Il y en a de plus en plus. Alors, d'ici là, joyeuses fêtes à tout le monde. Une bonne année 2023 et on se retrouve dans quelques semaines.
Nos meilleurs vœux pour l'année 2023.
Hey, bonne fête. Pas bonne fête, mais joyeuses fêtes à toi aussi, Germain.
Merci, c'est gentil. Joyeuses fêtes.
Cube Radio.